Le carré d'ortie par Paul Bourget. Vous trouvez cela étrange, me dit le châtelain d'Ableville. Ce grand carré d'ortie dans ce jardin à la française, avouez-le. Nous le maintenons là pour une raison bien extraordinaire aussi. C'est tout un drame que je vous raconterai mal, mais puisque vous avez aimé un peu cette vieille bâtisse, ces hêtres séculaires, cette terrasse sur la vallée de l'Orne, vous aurez peut-être quelque plaisir à savoir comment cette gentilhommière a été préservée sous la terreur. Nous gardons notre chartrier. Oh, un très petit chartrier. Une relation de cette aventure écrite par mon arrière-grand-tante qui en fut l'héroïne. Vous lirez la chose en un quart d'heure après le goûter. Et vous aurez encore le temps de gagner Bagnole pour dîner. Seulement, Ableville sera pour vous plus vivant. Et c'est ce que je désire. Nous ne sommes pas des ducs et pairs. Notre famille n'a jamais marqué, ni sous l'Ancien Régime, ni depuis, mais nous avons duré et duré ici depuis 300 ans. J'y suis né, je m'y suis marié, j'ai élevé les miens, et j'espère y mourir. Vous comprenez ce que sont pour moi ces briques et ces pierres. Il me montrait la simple façade qui date de Louis XIII. Elle n'a en effet pour ornement qu'un bossage de pierre, tranchant en gris sur la brique rouge du fond. Cette construction modeste a tout de même très bon air avec ses deux tourelles, ses longs toits couverts d'ardoises, ses vertes futaies encadrant le jardin là le nôtre, et son étrange parterre d'ortie. Joignez-y la rivière là-bas et le maître du logis pour compléter le tout. Monsieur d'Ableville est un ancien officier retraité capitaine après avoir servi au Tonkin. Le ruban jaune de la médaille militaire au revers de son veston raconte comment. De grands chagrins de famille, sa femme et ses trois filles mortes coup sur coup ont encore flétri son maigre masque, osseux et creusé. À 55 ans, il est tout blanc, mais il se tient très droit, et ses yeux bleus ont la fierté de regard qui sied au possesseur de cette noble retraite. Il la soigne un peu comme un tombeau, un peu comme un musée. N'ayant pour héritier qu'un neveu qui ne porte pas son nom, il la laisserait volontiers, pour que rien n'y bougea plus, à quelque académie, d'après illustres précédents, n'était qu'il est l'esclave de l'idée du bien de famille. Ce portrait qui marche les idées de ses traits, de ses gestes, de son attitude. Quand sa main nouée de veine dresse sa canne de jonc à pomme d'or pour nous montrer la perspective d'une charmille, le dessin d'une pièce d'eau, un angle de mur, vous vous étonnez qu'il n'ait pas une manchette de dentelle autour de son poignet desséché, un habit XVIIIe siècle autour de son torse mince, une perruque sur son front hautain. Vêtez-le ainsi, vous avez devant vous un bailli, tel qu'on imagine celui de Mirabeau, un de ces seigneurs obscurs et dévoués en qui se pensait leur race. Peut-être le prestige qu'exercent sur moi les hommes de ce type, si parfaitement en accord avec eux-mêmes, augmenta-t-il l'impression que me donnèrent les quelques notes laissées par Mademoiselle Sélénie Barrois d'Ableville. Peut-être le réduit où je lus ses confidences, un minuscule cabinet en rotonde isolé dans la tour et tout garni de boiseries, s'harmonisait-il trop intimement avec les scènes évoquées sur ces feuilles jaunies que mon hôte avait retirées religieusement d'une cassette d'acajou massif à ses armes. Toujours est-il que cette histoire m'émut assez pour que je lui demandasse de la copier. Il me le permit et la voici, transcrite telle qu'elle, avec quelques corrections d'orthographe, faut-il l'avouer. La feu demoiselle Sélénie avait toutes les traditions de l'Ancien Régime, celle y comprise d'écrire comme elle prononçait. Les livres lui étaient moins familiers que la cravache. Ableville, ce 10 août 1794. Anniversaire d'une affreuse journée, mais qui sera désormais pour moi celui d'une délivrance. Le 27 juillet, on a guillotiné à Paris le tyran Robespierre. Signe que tout va changer, le messager qui est venu apporter le billet de Covin, m'annonçant la nouvelle, m'appelait mademoiselle en parlant à mon domestique et plus citoyenne. Covin me dit dans ce billet qu'il repart pour l'armée. Il me demande pardon. Il ne me reverra pas. L'étrange homme. Si l'on m'avait dit il y a 3 semaines que je prononcerais son nom avec une autre émotion que celle de la crainte ou de l'horreur, je ne l'aurais pas cru. Il m'a sauvé, et avec moi, ce château, ces terres, tout ce patrimoine, à cause duquel je n'ai pas voulu émigrer avec mon frère. Il m'a sauvé, et à travers quels incidents. Je veux les avoir écrits pendant qu'ils sont tout frais dans mon souvenir. Il le faut pour le jour où le roi reviendra et où l'on fera justice. Il faut que cet homme ne soit pas puni. Il était un jacobin. Il a commis des crimes, j'en suis sûr. Mais je lui ai vu avoir un de ces mouvements d'honneur qui efface tout. Quand il est revenu au village, il y a 6 semaines, j'ai su tout de suite qu'un événement se préparait. J'écrirai ici la vérité entière que je n'ai pas révélée à mon frère. Le pouvais-je? Qu'aurait-il pensé s'il avait su qu'un Covin, un petit médicastre de campagne, un fils de domestique, envoyé à l'école, puis chez les jésuites par la charité de nos parents, avait osé m'avouer qu'il m'aimait? Philippe m'aurait dit, vous avez donc été coquette. Je n'étais qu'imprudente. Mais dans ces mois qui ont précédé les états généraux, un vent de folie soufflait sur nous tous. Ce jeune homme revenait de Paris avec le prestige de ses examens brillamment passés. On parlait de lui comme d'un futur représentant du tiers. Il professait des idées qui me paraissaient généreuses. J'avais 25 ans, l'âge où une jeune fille, surtout orpheline et qui tient la maison d'un frère non marié, peut se permettre les indépendances d'une jeune femme. Je me plaisais à la conversation de Covin. À plusieurs reprises, l'ayant rencontré dans mes promenades à cheval lui-même, et qui faisait les courses préparatoires à son élection, il m'avait accompagné, d'abord quelques minutes, puis un peu plus longtemps. Je n'y avais pas attaché d'importance. Devant Dieu qui me voit tracer ses lignes, je jure que j'étais aussi étonné qu'épouvanté quand il m'a parlé comme il m'a parlé. C'était le lendemain du jour où il avait été nommé député à cette fatale assemblée qui allait être la constituante. Je laissais aller mon cheval sous les grands arbres de la forêt de Rabaudange. Je pensais à ces états généraux justement, l'air de félicité qu'ils inauguraient pour la France. Tout d'un coup, je vois Covin qui sort d'une allée transversale. Évidemment, il m'avait guetté. Il me savait au pas de la mienne, je le félicite de son succès, il se taisait. Il était si pâle que je lui demandais s'il se sentait souffrant. C'est alors qu'il commença de me dire des mots dont j'ai peine, même aujourd'hui, à croire qu'il les a réellement prononcés, que je les ai réellement entendus. Mais oui, je les ai entendus, je les entends encore. Je revois ses yeux. Quand, lui ayant répondu comme je devais, il me prit le bras en répétant « Oui, je vous aime, je vous aime. Je le savais que vous ne voudriez pas m'épouser. Vous me méprisez parce que vous êtes une fille noble et moi un manant. Il y a 15 ans que je vous aime. Je n'ai travaillé que pour vous. Je ne me suis fait nommer député que pour vous. Regardez-moi bien et rappelez-vous que vous serez à moi. » Je le regardais, comme il me demandait, pour lui prouver que je n'avais pas peur. L'expression sauvage de sa physionomie souleva en moi une révolte. J'essayais de me dégager. Comme il me serrait toujours, je le cravachais en plein visage de ma main restée libre, avec une telle violence que la douleur lui fit lâcher prise. Je partis au galop. Il me suivit. Heureusement, une d'Abbeville manœuvre mieux un cheval qu'un Covin. Après un quart d'heure, je cessai d'entendre le bruit des sabots de sa bête derrière la mienne. Je rentrai au château. J'aurais dû tout raconter à mon frère. J'ai eu peur d'un esclandre. Il serait toujours temps de parler si Covin ne se tenait pas pour satisfait de la leçon que je lui avais donnée, un peu vive, mais qu'il méritait. Quelques jours plus tard, il partait pour Paris. Ses premiers votes provoquèrent chez mon frère une colère que je jugeais inutile d'augmenter. D'ailleurs, les événements se précipitèrent. L'émigration commença. Je poussai Philippe à quitter la France. Il ne s'y décida qu'à l'époque où les princes commencèrent à organiser des régiments de gentilshommes. Il fut convenu que je n'émigrerais pas, moi, et que j'essaierais de garder le château et les terres. Si Covin avait vécu dans le pays, aurais-je eu le courage de rester? Il n'y vivait pas. La constituante finie, il avait repris à Paris son métier de médecin, puis j'avais su qu'il avait rejoint l'armée de Dumouriez comme chirurgien et qu'il avait assisté en cette qualité à Valmy et à Jemappes. Je me disais, il m'a oublié. J'en voyais la preuve dans le fait que ses parents d'Abbeville, un oncle qu'il avait là et 2 cousins, ne semblaient pas s'occuper du château. Les forfaits cependant se succédaient. L'assassinat de la reine avait suivi l'assassinat du roi. J'apprenais à chaque instant une arrestation, une confiscation, et sauf quelques petites tracasseries, comme de me couper des arbres, de m'imposer des garnisaires de passage, de m'appeler citoyenne comme j'ai dit, on me laissait exister. Mes fermiers ne payaient plus, mais les fermes restaient à nous. Les lettres de mon frère, écrites du temps de Condé, maintenant avaient beau se faire inquiète et me supplier de m'échapper, je me voyais si paisible dans ce coin perdu de Normandie, où par hasard non moins extraordinaire on n'avait pas encore chouané, que j'avais fini par ne plus avoir peur. J'eus peur cependant, et bien peur, le 14 juillet dernier, autre sinistre anniversaire, quand le vieux Jacques, mon domestique, vint me dire « Il y a là M. Covin, qui demande à parler à mademoiselle. » « M. Covin, le médecin ? » ?»« Oh, il est en officier maintenant, avec des bottes, des plumes, un sabre. Il paraît qu'il a été blessé. Il est ici depuis hier. »« Eh bien, fais-le entrer. » C'était bien Covin, en effet, dans un uniforme qui avait trompé ce rustre de Jacques, celui de chirurgien-major de l'armée de Sambre-et-Meuse. Une balle reçue en ramassant des blessés lors d'un combat sur le Rhin l'avait fait envoyer en congé de convalescence. J'ai su cela depuis par d'autres. Il n'était pas venu pour me parler de lui. À peine entré, il me dit « Mademoiselle, je viens vous sauver. »« Et de quoi, monsieur ?» le répondis-je. À son regard noir qui brûlait dans sa face consumée, j'avais compris que j'avais devant moi l'homme de la forêt de Rabaudange. Ni les fièvres de la Révolution, ni celles de la guerre ne l'avaient changé. Il m'aimait, il me voulait. Je sentis cela avec la même évidence, la même horreur, et je lui opposai la même invincible volonté. « De vous, dit-il, de vous qui recevez des lettres d'un conjuré, d'un traître, de quelqu'un qui porte les armes contre la patrie, qui lui écrivait, c'est de M. d'Abbeville que vous voulez parler ? C'est de l'émigré d'Abbeville. Sortez, monsieur. Vous avez outragé la fille de votre bienfaiteur, une première fois. Vous outragez son fils aujourd'hui, et sous son toit, allez-vous-en. Je ne m'en irai pas. Vos lettres ont été surprises, entendez-vous ? On les a, entendez-vous ? Tenez, reconnaissez-vous celle-ci ? Il me tendait une feuille de papier que je reconnus, en effet, avec une épouvante qui glaça tout mon sang. C'était ma dernière lettre à Philippe. Et ceci, insista-t-il. Cette fois, c'était l'écriture de mon frère que je distinguais nettement sur le papier. Nous nous servions pour notre correspondance d'un intermédiaire très sûr, un petit horloger d'Alençon à demi-boutiquier, à demi-colporteur. Ce malheureux Dubois avait-il trahi ? L'avait-on trahi ? Dubois est arrêté, reprit Covin, comme s'il eût lu dans ma pensée. Il a confié ses papiers à sa femme. Elle a pris peur. Elle les a donnés à mon cousin Pierre, qui a pris peur. Il est venu me les remettre à Paris, où il savait que j'achevais de me guérir. Me direz-vous encore de m'en aller maintenant ? Allez-vous-en, répétai-je. Toute mon énergie m'était revenue devant la menace de ces dernières paroles. Ces papiers ne sont pas à vous. Si vous les gardez, c'est un vol. En effet, ils ne sont pas à moi, ricana-t-il. C'est à la justice qu'ils appartiennent. Alors livrez-les. J'avais croisé mes bras en le regardant bien en face, comme il y a 3 ans, dans la forêt. Je n'avais plus ma cravache pour lui cingler le visage. Les mots me restaient, et la voix, j'ajoutais. « Tous les bleus sont des voleurs et des assassins. Vous êtes un bleu, faites votre métier. »« Et les blancs, qu'est-ce qu'ils sont donc ? » s'écria-t-il. « Eux qui conspirent avec l'étranger contre la nation. Et vous, leur complice, qu'êtes-vous donc ? Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. On vous a menti. La preuve que vous êtes une patriote malgré tout, malgré votre caste, c'est que vous n'avez pas quitté la France, vous. Et puis, soyez ce que vous voulez. Je vous aime toujours. Vous m'avez outragé, frappé, je vous aime. Vous êtes du parti de ceux que je hais, de ces détestables aristocrates que j'enverrai tous à l'échafaud. Je vous aime. Si l'on ne vous a pas inquiété ici, ne devinez-vous pas que vous me le devez ? J'ai trouvé le moyen de vous protéger, de l'Assemblée d'abord, puis de l'armée. Mais à présent, c'est fini. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Vous serez à moi. Je vous veux. Je vous veux. Oh ! Continua-t-il avec un sourire amer, comme je reculais. N'ayez pas peur. C'est de vous que je veux vous tenir, de votre consentement. Et impérieux, sombre, l'accent soudain dur et sec. Le château est gardé. N'essayez pas de vous échapper. Je ne vous demande plus d'être ma femme, de m'épouser. Vous diriez oui aujourd'hui et non demain. Je passerai devant vos fenêtres à minuit. Si elles sont éclairées, c'est que vous aurez laissé la petite porte ouverte, celle du potager, et je monterai. J'attendrai jusqu'à 2 heures. Si à 2 heures, la lumière n'a pas paru, les lettres seront chéquées de droit à l'aube et vous serez arrêté demain. Portez-les donc tout de suite, fis-je simplement, et j'ajoutai, les nuits normandes sont froides, même en été. Vous venez d'être blessé. Vous êtes médecin. Vous savez qu'une flexion de poitrine est bientôt prise. Ne la risquez pas. Je ne comprends plus, en écrivant ceci, que j'eus la force de ce persiflage. Mais il me fallait à tout prix humilier cet homme, dans cette minute où il exerçait sur moi cette hideuse pression. Et l'instinct me disait que de lui rire au nez était le plus sûr moyen. Sans doute mon ironie avait porté. Il devint livide et sortit. À peine fut-il hors de la pièce que je dus m'étendre sur une chaise longue. Mon cœur battait à croire qu'il briserait ma poitrine et je flageolais. Ayant pris la plume pour écrire la vérité entière, pourquoi tairais-je que j'ai pleuré à cette place-là, enfantinement, follement, lâchement? La vision de la guillotine était devant moi, le froid du couperet sur ma nuque. Ma chair en criait d'angoisse. Toute ma jeunesse se révoltait dans un spasme qui me fit me redresser. C'est l'animal traqué qui court en cercle, le prisonnier qui fouille les murs de son cachot. Que faire? M'échapper? Il était midi. J'avais 12 heures devant moi. J'allais à une fenêtre. Un paysan se tenait assis devant la grille de la cour d'honneur. À une autre fenêtre, et qui donnait au-dessus de la porte du potager, dont avait parlé Covin, un autre paysan la gardait. Covin m'avait averti. C'était des hommes à lui. J'étais prise. Moi, parti, d'ailleurs, c'était le château et la terre devenus biens nationaux, le patrimoine perdu. Me tuer, j'y ai pensé, mais après, il y a un autre monde, et pour l'homicide de soi-même, l'enfer. Aller chez Covin, le supplier, essayer de l'attendrir, j'y ai pensé aussi. À quoi bon? À une seule chose, je n'ai pas pensé une seule fois. Je veux me rendre ce témoignage, à sauver ma vie en acceptant l'ignoble marché. Je finis par où j'aurais dû commencer. Je me jetai à genoux et j'implorai la miséricorde de Dieu. Je récitai avec tout mon cœur la belle prière de Madame Élisabeth. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, mon Dieu? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé, ordonné de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, cela me suffit. Quand je me relevai, j'avais fait mon sacrifice. J'étais non pas consolé, mais calme, mais résolu. À quoi? D'abord à remplir mon devoir, envers ceux qui m'étaient demeurés fidèles depuis ces 3 ans. Il ne fallait pas, quand on viendrait m'arrêter, que l'on trouvât un document de nature à compromettre un seul de mes serviteurs et de mes voisins. Allumer un feu dans une des pièces, et par cette saison, c'était risqué de donner l'éveil. J'avais l'âtre de la cuisine. Après le déjeuner auquel je ne fis guère honneur, mais pour mes gens, je devais ne rien changer de tout le jour à mes habitudes. J'envoyai au village la femme qui me préparait mes repas. Elle emportait des commissions assez nombreuses pour que j'eusse à moi l'après-midi le temps, aidé par Jacques, de brûler des liasses de lettres, celles de mon frère d'abord, puis les autres, puis les notes écrites pour moi, puis les quittances qui pouvaient signaler celui-ci ou celle-là. Cette besogne finie, je descendis à la cave, toujours aidé par Jacques, un coffret contenant les bijoux de famille que j'ai conservés. Nous les enterrâmes. Je fis ensuite, de l'argent qui me restait, 3 parts, une très petite que je me proposais d'avoir dans ma prison, l'autre plus grande que je chargeais ce brave homme de remettre à mon frère, si c'était jamais possible, une 3e qu'il devait distribuer aux autres domestiques, ses camarades, après mon arrestation. Je la lui annonçai comme probable, sans lui donner aucun détail. C'est le gars Covin qui vous a prévenu, mademoiselle, me dit-il. Il a beau être devenu un brigand, c'est pas un mauvais cœur, mademoiselle, je vous assure. Il tient de son père, qui était si brave. Je ne peux m'empêcher de croire que je dois mon salut aux fermes propos que j'avais faits, agenouillés tout à l'heure devant mon crucifix, de pardonner à mes persécuteurs. Sans ce vœu de charité, je parlais à Jacques. Je lui disais le chantage de cet homme, et le lendemain matin, rien n'arrivait de ce qui est arrivé. Jamais Jacques ne l'eût laissé entrer dans le château, n'eût causé avec lui, ne l'eût amené à ma porte. Mais je vais trop vite. Je reprends ma journée. À 6 heures donc, tout était en ordre. Les Carmagnoles pouvaient venir. À 6h30, je soupais. À 9 heures, après avoir passé une dernière revue, prié de nouveau, je me couchais. Si incroyable que cela puisse paraître, je dormis. Des coups frappés à la porte me réveillèrent en sursaut, il était grand jour. « Eux déjà ?» me dis-je, en retrouvant conscience de la terrible réalité. Mon cœur battait de nouveau bien fort, tandis que je criais « Qui est là ?»« Ouvrez, mademoiselle, ouvrez vite !» supplia une voix, celle de Jacques. « Il y va de votre bille !» Je sautai à bas de mon lit, passai un peignoir, noué mes cheveux sur lesquels je pris à peine le temps de jeter une fanchon, et les pieds nus dans mes mules, j'allai ouvrir. Covin était avec Jacques. Je me rejetai en arrière en poussant un cri. « Vous ici, vous? Vous avez osé? Emmène cet homme, Jacques. Empêche-le d'entrer. Il t'a menti. C'est lui qui m'a dénoncé. C'est un bandit. Qu'il n'entre pas. » D'ailleurs, je sautai sur un pistolet chargé que j'avais toujours à portée de ma main, la nuit. « S'il passe cette porte, je le tue. » « Tu as fait cela, toi, le gars Covin, le fils de ton père ?» dit Jacques en se jetant sur Covin. « Oui, » répondit celui-ci. « Je l'ai dénoncé, Jacques, c'est vrai. Je viens de Falaise, où j'ai livré des lettres d'elle et de M. Philippe. » Dans le désarroi effroyable de son être, les expressions de son enfance le revenaient à la bouche. Mais c'est vrai aussi que j'ai eu tout de suite de l'horreur de ce que j'ai fait. J'ai cremé un cheval pour entrer à temps et pour la sauver. Sur la mémoire sacrée de mon père, Jacques, je te jure que je viens la sauver. Laisse-moi passer, Jacques. Il faut que je lui parle. Il faut qu'elle m'écoute. » Il se tourne envers moi. « Vous ne voyez donc pas que je suis à l'agonie, mademoiselle ?»« Ils seront là dans une heure, avant peut-être, et s'ils vous prennent, c'est la mort. J'étais fou. Mais vous voir arrêter, juger, boire. » Devant ses yeux, à lui aussi, surgissait l'image de la guillotine. « Non, 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 » protesta-t-il avec frénésie. « Ça ne sera pas. Je ne vous demande plus rien, mademoiselle. Rien que de me laisser vous sauver. » J'avais retrouvé mon sang-froid. J'écoutais cet homme, et je sentais qu'il était sincère dans son repentir, comme il l'avait été dans sa menace et dans son égarement. Pourtant, je ne quittais pas mon arme. Jacques, lui, restait entre nous deux, contenant Covin du geste et se tournant vers moi pour attendre mes nouveaux ordres. Je pensais à mon frère, à la maison. Je me dis tout bas, c'est la seule chance, et tout haut, vous ne pouvez plus me sauver. « Si, » répondit-il, et une joie le transfigura. Il avait suffi que je lui parlasse d'une voix qui ne le méprisait plus. Il continua. « Vous avez le courage de souffrir, de beaucoup souffrir. Je crois vous l'avoir prouvé, » répliquai-je. « Moralement, oui, mais physiquement, mais dans votre chair, mais dans votre sang. D'ailleurs, vous ne l'auriez pas, ce courage. » Il s'exaltait en parlant. « Que Jacques et moi, nous vous y forcerions à l'avoir. Prends ses gants, Jacques. » Il ôtait ses gants d'uniforme, mêlés à tes mains, et va dans le parc me ramasser une brassée de grandes orties, les plus grandes et les plus fournies. Mais vite, vite! Et comme l'autre ne bougeait pas, « Mademoiselle, dites-lui d'aller. Je ne peux pas, moi. Si l'on me voyait, nous serions tous perdus. » Et sauvagement, « Oh, misère de nous! Vous ne croyez pas en moi? Je l'ai mérité. Mais c'est terrible! » « Fais ce que dit monsieur, » ordonnai-je à Jacques. « Merci, » répondit Covin. Jacques obéit, son pas s'éloigna. J'étais seul avec cet homme qui m'aimait, qui me l'avait dit, qui m'avait dénoncé par fureur de ne pas m'avoir à lui, ce matin même. Et comment expliquer cela? J'étais sûr maintenant qu'il ne lui échapperait plus une parole qui pût offenser ma dignité. Il allait et venait à travers la chambre, me jetant par instant un regard passionné où je lisais un remords égal à son crime. Cette passion ne m'effrayait plus. Elle était la garantie de sa sincérité. Quel moyen restait-il de me sauver, si atrocement douloureux qu'il avait cru devoir m'avertir? Je devinais son idée sans vouloir l'interroger. Comment lui parler sans le remercier? Et il m'avait livré, sans l'accuser, et il risquait l'échafaud à cause de moi. Que l'on découvrit sa présence au château et l'avertissement qu'il m'avait donné, c'était fait de lui. Ce tête-à-tête tragique et silencieux ne dura pas longtemps. Jacques revenait avec sa gerbe d'ortie. « Mettez-vous au lit, mademoiselle, » fit Covin. « Jacques, garde les gants. Et moi, mademoiselle, où puis-je trouver un linge pour m'envelopper la main? Il faut que nous vous fouettions tout le corps avec ces orties. Tu entends, Jacques? Fouetter, pas frotter, de manière qu'il ait une éruption bien généralisée. « Laissez-moi, » dis-je, « je me frapperai seul, j'en aurai la force. »« Vous ne pourriez pas, » répondit-il, « vous auriez trop mal. » Et puis les épaules, le dos. C'est le médecin qui vous supplie de mettre de côté toute pudeur. Mais non, encore une fois, j'ai tout mérité. Employez Jacques au moins et sachez souffrir. » Il sortit de la chambre tandis que le vieux domestique et moi nous exécutions cette singulière ordonnance dont le but était très clair. Covin n'avait pas menti. Je ne crois pas qu'il y ait au monde un supplice comparable à cette flagellation par les orties. C'est une sensation indicible d'une brûlure si profonde. Ces paquets d'herbes venimeuses vous mordent les fibres des fibres, les papilles de la peau, le sang, les os. C'est une tunique de démangeaison folle, passée sur la chair et sous la chair, et qui vous élance, et qui va chercher les nerfs les plus ténus pour les irriter d'un chatouillement cruel à en mourir. Quand ce fut fini, je me recouchai. Le prurit était si intense que j'avais de la fièvre. Jacques appela Covin. « Est-ce bien ainsi ? » demandai-je en montrant mes mains et mes poignets, couverts déjà de papules blanchâtres auxquelles la peau enflammée faisait un fond rouge continu. « Et le visage ? » dit-il. Sans prendre pour lui-même aucune précaution, il empoigna une touffe de ses cuisantes orties, il m'en frappait le front, les joues, le cou en répétant « Fermez les yeux surtout, fermez les yeux !» Puis, « Dans quelques heures, ce sera passé. Toi, Jacques, emporte ces herbes, toutes, entends-tu ? Voyez qu'il n'en reste aucun brin dans les draps. Restez au lit, mademoiselle, et à tout à l'heure. » Seigneur Dieu, comme je souffrais. L'imminence du danger me donna seule la force. Covin partit de refaire mon lit avec Jacques. Le désordre réparé, je sonnai ma femme de chambre. Son cri à ma vue me prouva que Covin avait calculé juste. « Mais qu'avez-vous, mademoiselle ? Un peu de fièvre, je crois. Mais que mademoiselle se regarde !» Elle me tendait un miroir sans presque oser approcher. Les plaques courtiers, saillantes, arrondies, comme détachées sur un masque pourpre, rendaient mon visage à peine reconnaissable. Je n'eus pas le loisir de m'attarder à cette contemplation. Une rumeur montait de la cour, des pas de chevaux, des voix d'hommes. « Mademoiselle, ce sont des soldats, » dit la femme de chambre, « et Covin qui les conduit. Jésus-Marie, qui aurait cru cela ? On vient arrêter mademoiselle. Ça ne se peut pas. Quand ils verront qu'elle est si malade ?» Elle se précipite. Je l'entends qu'il proteste dans le corridor. « Mais je vous jure que mademoiselle est malade. Vous n'entrerez pas. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne permettrez pas cela, monsieur Covin. »
« Je ne permettrai pas qu'on se moque de la justice du peuple, » répondait une voix brutale et dure. Était-ce volontairement ? Celle de Covin.
« Et puis il n'y a pas de monsieur ici, entends-tu, citoyenne ? Il y a un citoyen Covin, chirurgien-major à l'armée de Sambre-et-Meuse, et qui connaît ces comédies-là. Si la citoyenne est malade, on la guérira. Mon confrère Guillotin, un remède infaillible pour les maladies de cette espèce. » Au rire féroce de ses acolytes, je devinais de quelle mimique il avait dû accompagner cette allusion au rasoir national. Jouait-il une comédie lui-même ? Ou bien cette sensibilité si instable avait-elle de nouveau tourné ? J'en tremblais à le voir qui entrait dans ma chambre, avec une troupe de carmagnoles à mine farouche, que l'idée de surprendre une aristocrate au lit égayait ignoblement. Je me souvins du massacre de la pauvre princesse de Lamballe, et je me sentis glacé dans mon horrible brûlure.
« Hé hé, » disait Covin, « ça n'a pas trop bon aspect. N'avancez pas vous autres.
Ça ne vous connaît pas, ces misères-là, au lieu que moi. Ton bras, citoyenne.
Rabat la manche. Qu'on voit ses épris partout. L'autre. Le cou.
Le bout, à présent. » Il me le tâtait.
« Ça me suffit. Le confrère Guillotin est de trop. C'est la petite vérole et carabinée. « Laissons la bête crever au gîte et n'y touchons pas. »«
Puisque tu l'aimes tant, ta patronne, » continua-t-il en s'adressant à la femme de chambre, « tu peux rester toi, tu verras ta peau dans quelques jours. Nous, par le flanc gauche, et sauvons la nôtre. » Il avait joué son rôle avec une telle autorité, un tel naturel, que les brigands étaient hors de la pièce avant même qu'il n'eût fini son discours. Il avait dit vrai, il m'avait sauvé. Pour combien de temps ? Depuis ce 15 juillet, car c'était le 15, il s'est écoulé 26 jours que j'ai passé dans ma chambre, n'osant pas même me montrer à la fenêtre, servi par le seul Jacques, et tous mes gens n'osant pas l'approcher lui-même, par épouvante de la contagion. Mais c'est fini, fini. Robespierre est mort. Covin me dit dans son billet qu'il a pu faire détruire mon dossier
et suspendre l'enquête. Je suis sauvé. La terre et le château sont sauvés grâce à lui. » Et il part.
Dois-je essayer de le revoir pour lui dire merci?
Non. Je ne lui écrirai pas. Je ne le reverrai pas. C'est mieux.
Eh bien, me dit l'arrière-petit-neveu de la demoiselle Sélénie quand je le rejoignis après cette lecture,
comprenez-vous à quel sentiment a obéi ma grand-tante en demandant par son testament qu'il eût toujours là ce carré d'ortie pour appeler au châtelain d'Ableville et le danger qu'elle avait couru et son sauveur?
Et lui-même, interrogeai-je, ce Covin, qu'est-il devenu?
Un des chirurgiens en chef de la grande armée, baron de l'Empire. Il est mort héroïquement en ramassant les blessés sur le champ de bataille de Wagram.
Et tenez, puisque cette histoire paraît vous avoir intéressé, voici sa croix d'officier de la Légion d'honneur qu'il avait léguée à ma grand-tante.
Regardez, derrière le cadre, vous reconnaissez son écriture à elle. En souvenir du 15 juillet 1794, R.I.P. Requiescat in pace.
Il s'était donc revu, demandai-je,
jamais. Elle ne s'est pas mariée?
Non.
Ni lui non plus, ni lui non plus.
Quel commentaire, ou c'est mieux, souligné par Mademoiselle d'Ableville à la fin de son tragique récit, et quel mystère dans le cœur de la vieille fille noble, qui s'était sentie aimée si passionnément par un ennemi de tous ses rêves, de toutes ses croyances, de toutes ses fidélités. Et elle aussi, ne l'avait-elle pas aimée, sans vouloir se le permettre? Et alors, de quel regard devait-elle, au soir de ses jours, regarder ce carré d'ortie frémir au vent qui lui apportait du fond de la vallée la plainte lointaine, monotone et triste, de la rivière?
Je me souviens, je l'écoutais en m'en revenant d'Ableville. Il me remuait comme une plainte humaine.
Ainsi s'achève le carré d'ortie par Paul Bourget.